Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Supplément aux mémoires. Généalogie de ma famille. En écrivant les différentes parties de ces mémoires, je n'ai point dit le travail intérieur qu'ils m'ont coûté. Il était naturel qu'en m'occupant des hommes et des lieux, je voulusse connaître ce qu'étaient ces lieux et ces hommes. La passion de l'histoire m'a dominé toute ma vie. J'ai souvent entretenu des correspondances sur des faits qui n'intéressent personne. Je me plais, par exemple, à savoir comment s'appelle un champ que j'ai vu sur le bord d'un chemin, qui possédait jadis ce champ, comment il est parvenu au propriétaire actuel. Je m'attache de même à découvrir ce que sont devenus des cadets disparus vers telle ou telle époque. C'est ainsi qu'ayant à parler de ma famille, je me suis livré à mes investigations favorites sans autre intérêt que mon plaisir d'analyste, indifférent d'ailleurs à tous les autres intérêts qu'on peut attacher à un nom. J'ai pensé mourir d'aise quand j'ai découvert que j'avais des alliances avec un vieux prêtre de paroisse nommé Courte Blanchardiette de la Boucatelière, Foiret, qui demeurait dans un clocher. J'avais donc réuni sur ma famille ce que j'en avais pu apprendre, mais mon texte, bourré de ma science, devenait long. L'ennui que j'aime à trouver au fond de l'histoire n'est pas du goût de chacun. C'est pourtant de la succession des terrains arides et féconds que se compose un pays. Arrêté par mille difficultés, je me résolus à ne mentionner dans mes mémoires que ce qu'il fallait pour faire connaître les idées de mon père et l'influence qu'elles eurent sur ma première éducation. Une chose me décidait encore à la suppression de ces errements de famille. Je possédais le mémorial des titres envoyés à Malte en 1789 pour mon agrégation à l'ordre, mais je n'avais pas le travail des chérins sur ces titres. Bien que ma présentation à Louis XVI fît preuve de ce travail, encore me manquait-il, et par conséquent, la base de l'édifice. Les deux chérins, Bernard et son fils, Louis-Nicolas, étaient morts. Le dernier, ayant embrassé la Révolution, était devenu chef d'état-major de l'armée du Danube. On connaît la sévérité du père et du fils. Le premier se plaignait des généalogistes chambérelans, ouvrier qui travaille en chambre, gens sans études, qui, pour de l'argent, bercent les particuliers d'idées chimériques de noblesse et de grandeur. Les archives des chérins avaient été dispersées quand le passé ne compta plus. Mais peu à peu, les cartons, cachés ou dérobés, furent rapportés à notre vaste dépôt littéraire. Ils y continuent aujourd'hui une série précieuse de manuscrits. Le carton dans lequel il est question de ma famille et du nombre de ceux qui n'ont pas été perdus. M. Charles Lenormand, conservateur à la bibliothèque du roi, sachant que je faisais des recherches et pensant qu'une communication pouvait m'être utile, a bien voulu me faire part du dossier Chateaubriand. La pièce généalogique dont il m'a été permis de prendre copie est évidemment une minute composée d'abord par le premier chérin, lorsqu'il fut chargé, en 1782, d'examiner les titres de ma sœur Lucille pour son admission au chapitre de l'Argentière. Puis cette minute a été continué par le second Chérin, pour mon frère, et enfin pour la rédaction du Mémorial des actes authentiques, quand je fus admis dans l'ordre de Malte. Muni de ces documents, je ne puis plus reculer, car ils ne m'appartiennent pas. C'est la propriété de mes neveux, aînés de ma famille. Je n'ai pas le droit, pour abonder dans mon opinion particulière, de les priver de ce qu'ils considèrent comme des épaves, produits de leur naufrage. En plaçant ces arides reliques dans des casiers, je satisfais à ma piété envers mon père, soit que ses convictions aient été risibles ou raisonnables, chimériques ou fondées. J'ai fait les deux parts, les préjugés dans la note, mon indépendance dans le texte. Une fois mon parti pris, j'ai cru qu'il était juste de joindre au travail des généalogistes des ordres du roi les autres documents que je possédais. Ces documents ont repris leur valeur. Mes propres recherches viennent de nécessité grossir ma collection. Le nom que je porte, ayant traversé beaucoup de siècles, beaucoup d'aventures se trouvent attachées à ce nom. Je les mentionne toutes afin de dissimuler autant qu'il m'a été possible l'ennui du sujet. Je combats aussi les historiens quand le point en litige en vaut la peine. Je montre comment ils se sont trompés ou par imagination
ou par toute autre cause.
J'ai reporté les notes A et B tout à la fin et hors de mes mémoires. Mais si ce m'était un devoir de produire la généalogie de ma famille, personne n'est obligé de la lire. Ce hors-d'œuvre peut être passé sans le moindre inconvénient. Le mémorial envoyé à Malte en 1789 est d'une grande étendue. Il me fut adressé en 1821 par la lettre ci-jointe. Thouars, de Sèvres, 11 juin 1821. Monseigneur, j'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence les papiers que je vous ai annoncés par ma première lettre. Il consiste dans une copie du Mémorial des titres, pièces et actes dont s'est servi noble François-René de Chateaubriand pour être reçu de majorité au rang de chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en la vénérable langue de France, prieuré d'Aquitaine. Je ne m'arrêterai point sur le mérite historique de ce procès-verbal de preuve de noblesse qui remonte en ligne directe du côté paternel jusqu'au 23e aïeul, Brian Ier, seigneur baron du château de son nom, qui se distingua à la bataille de Hastings en 1067. L'antique origine et l'illustration des Chateaubriand y sont démontrées par les preuves les plus authentiques. Cette maison n'a rien également à désirer du côté des alliances, étant unie à celle des Lusignan, Thouars, Bretagne, Aragon, Rohan, Montmorency, Laval, etc., etc. Cette copie de mémorial avait été faite sur un original qui fut, dans le temps, envoyé à Malte par le dit noble François-René de Chateaubriand et en était revenu, ce qui est prouvé par les enveloppes du paquet ci-jointe et par la relation honorable, également ci-jointe, écrite de ma main, parce que j'étais alors secrétaire de l'Assemblée provinciale du Grand Prieuré d'Aquitaine, tenue à Poitiers les 15 juin et 9 novembre 1789. Mon père, à la même époque, était vice-chancelier du dit prieuré. La minute du registre existe encore. En 1794, les scellés furent apposés sur les archives de l'Ordre de Malte, à Poitiers. Cette copie et cette relation s'y trouvaient comprises. La majeure partie des papiers furent condamnés au feu. Dans ces temps où les familles sacrifiaient elles-mêmes leurs titres originaux pour conserver leur existence, je conçus le projet d'arracher aux flammes quelques débris de ces preuves de noblesse, propres à remplacer un jour les originaux qui n'étaient plus. Mon père et mon frère, collaborateurs aussi courageux que dévoués, sont morts pendant la Révolution, etc. Je suis, avec un profond respect, de Votre Excellence, entre parenthèses, j'étais ministre, le très humble et très obéissant serviteur, Pontois, principal du collège. Entre parenthèses, nous reprenons les découpages effectués par Maurice Levaillant et Georges Moulinier dans l'édition des Mémoires d'outre-tombe de la Pléiade de 1946. Après le texte ci-dessus, Chateaubriand donne trois parties. D'abord, la copie du mémorial des titres envoyés à Malte par noble François-René de Chateaubriand, 1789. Celle-ci est suivie de l'énumération des pièces qui permettent de remonter la ligne directe de Chateaubriand du côté paternel jusqu'à Briand 23e, aïeul paternel.
Fin de la parenthèse.
Briand Ier, seigneur baron du château de son nom, passa en Angleterre et se trouva à la bataille de Hastings le 14 novembre 1067, où il signala sa valeur et rendit de grands services à Guillaume le Conquérant. Briand était fils d'Eudon, comte de Penthièvre et d'Onguin de Cornouailles. Du côté maternel, la ligne directe de Bedée, partant de demoiselle Apolline Jeanne Suzanne de Bedée, mère, est suivie jusqu'à messire Robert Bedée, huitième aïeul maternel, existant au début du XVIe siècle. Entre parenthèses, la deuxième partie donne les documents de la bibliothèque royale provenant du cabinet des Chérins. Preuve de noblesse faite au cabinet des ordres du roi au mois de septembre 1786 par Jean-Baptiste Auguste de Chateaubriand, frère aîné de François-René. L'original de ce mémoire, écrit tout entier de la main de Berthier, successeur de Chérin, fait partie du cabinet des titres à la bibliothèque du roi. De Chateaubriand, en Bretagne. Seigneur de Chateaubriand, les Roches Baritaux, le Lion d'Angers, Chalin, Chavannes, la Bouardière, Beaufort, le Plessis-Bertrand, Champinelle, Glesquin, Montafilan, La Guérande, Bellestre, Gordes-Candé, Penroy, Saint-Léger, Canfleur, Tanet, La Grisonnière, Vaurenier, La Ville-André, La Villeneuve, Combourg, Aubigné, Le Boulet, Malétroit à Dole, baron de Chateaubriand, appelé comte de Cazan et de Grasset, vicomte de Remalard, baron de Soigny et autres lieux. Armes. Semé de plumes de paon au naturel jusque vers 1260, et depuis de gueules semées de fleurs de lys d'or. Devise, notre sang a teint la bannière de France. Les monuments de l'histoire de Bretagne placent cette maison au rang des plus illustres de cette province. Elle doit ce rang distingué à son ancienneté, qui remonte à l'époque où les surnoms sont devenus héréditaires dans les familles, aux alliances illustres qu'elle a contractées, à ses emplois dans les cours de ses souverains, à ses services militaires dans leurs armées et dans celles de nos rois. Entre parenthèses, la troisième partie est constituée du travail de Chateaubriand. Après ces deux documents, le mémorial des titres et le travail des Chérins, il me reste à faire connaître mon propre travail. Révision et résumé. On a vu dans mon texte qu'on fait venir les Chateaubriand de Thierne, petit-fils d'Alain III, comte ou chef de Bretagne. Dupaz le soutient. Les bénédictins, dans l'art de vérifier les dates, suivent Dupaz. Le Beau admet cette opinion dans son Histoire du Bas-Empire, livre 81. Les prénoms des premiers Chateaubriand sont presque toujours Godefroy ou Geoffroy ou Geffroy, Thierne et Gauche, Gottfried ou Teudric, Gisel Ulf, Paix de Dieu,
puissant parmi le peuple,
aide des chefs. Un gentilhomme mien voisin, dit Montaigne, n'oubliez pas de mettre en compte la fierté et magnificence des noms de la noblesse de ce temps-là, dont Grumedan, Quédragan, Agélisan, et qu'à les ouïr seulement sonner, ils se sentaient qu'ils avaient été bien autres gens que Pierre, Guillot et Michel. le nom de château fut ajouté au nom de Brien selon l'usage de désigner la propriété par le nom du propriétaire. Il ne manque pas d'auteurs qui donnent une origine commune aux O'Brien d'Irlande et aux Brien de Bretagne. Quoi qu'il en soit, ces derniers Brien, vers le commencement du XIe siècle, communiquèrent leur nom à une forteresse considérable en Bretagne, et cette forteresse devint le chef-lieu de la baronnie de Châteaubriant. La baronnie de Châteaubriant était la troisième des 9 pairies primitives bretonnes qui donnaient le droit de présider les États. Ses prénoms, Tierne, Gauche, etc., sembleraient désigner une origine germanique. Les Francs descendirent dans l'Armorique jusqu'au Morbihan, tandis que les Normands, sur l'autre côté, remontèrent jusqu'à Saint-Brieuc. Dans les gestes de Louis le Débonnaire, on voit qu'il combattait un chef nommé Mormant ou Mormoran. On trouve encore entre Fougères, Dole et Rennes des gentilshommes du nom de Montmuran et un château du même nom. Première branche. Les barons de Châteaubriant. J'ai dit dans le texte que la famille des Châteaubriant se partagea en 3 branches. On trouvait dans la première, celle des barons de Châteaubriant, ce Geoffroy V qui passa avec Saint-Louis en Terre Sainte et dont les armes de pommes de pin d'or furent changées en fleurs de lys sans nombre, comme je l'ai rapporté.
Geoffroy V,
délivré de sa captivité, vint un soir frapper à la porte de son château. Sa femme Sibylle mourut de surprise et de joie en l'embrassant. En mémoire de son esclavage, Geoffroy fonda une maison de religieux de la Trinité pour secourir les captifs chez les Sarrasins. Belle et première aventure dans la branche aînée. La lignée des barons de Châteaubriant dura 350 ans et finit dans la personne de Geoffroy IX, tué au siège de la Roche-d'Hérien le 20 de juin 1347. Il combattait pour Charles de Blois, contre Jean de Montfort. Ce Geoffroy IX avait épousé Isabeau d'Avaugour, dont il n'eut point d'enfant. Son héritage fut dévolu à Charles de Dinan, héritier de Thomas de Châteaubriant, fille de Geoffroy VII, marié en 1315 avec Roland de Dinan. Cette Thomas eut pour arrière-petit-fils le fameux Jehan de Tinténiac, qui remporta le prix de la valeur au combat des 30. Tous les biens des barons de Châteaubriant, et entre autres la baronnie de ce nom, passèrent de la maison de Dinan dans celle de Laval, de celle-ci dans la branche aînée des Montmorency par le connétable, et de cette dernière dans la maison de Condé. L'aventure de la comtesse de Châteaubriant appartient aux Montmorency-Laval, devenus barons et comtes de Châteaubriant par alliance. J'ai vu dans ma jeunesse, entre les mains de mon père et de mon frère, force mémoire que leur envoyaient des archivistes et des hommes de loi pour venger la mémoire et l'honneur du comte de Châteaubriant. Ils poussaient leurs ailes jusqu'à nier les liaisons de la comtesse de Châteaubriant avec François Ier. Ils ne remarquaient pas que si cette histoire touchait au nom de la famille de Châteaubriant, elle ne touchait pas à son sang. Françoise, la coupable et peut-être la victime, était la dame de foi, et le comte de Châteaubriant était Jean de Laval. Au surplus, les peuples pardonnent aisément des faiblesses qu'ils partagent. L'amour des femmes, quand il ne descend pas trop bas, n'a jamais nui dans les Gaules. Charlemagne a été absous, les galanteries de Philippe Auguste, de Charles VII, de François Ier, de Henri IV, de Louis XIV, de tous les chevaliers depuis Dunois jusqu'à Bayard, ont bravé auprès de la nation les moralités des historiens. Je ne sache pas un Français qui ne reconnût volontiers Aspasie pour sa grand-mère. Eût-il à choisir entre elle et Jacqueline de la Prud'Autrie, sortie d'une maison où le ventre anoblissait, laquelle Jacqueline ne voulut jamais être la maîtresse d'un duc et père. Je m'arrêterai à cette aventure de la comtesse de Châteaubriant. Il y a un point de critique, curieux à éclaircir. Aventure de la comtesse de Châteaubriant. Mathieu II, baron de Montmorency, qui vivait au XIIIe siècle, fut marié 2 fois. Il eut un fils de chacune de ses 2 femmes.
Un de ses fils
épousa l'héritière de Laval. De là vinrent les Montmorency-Laval. Ce nom de Laval prévalut de telle sorte que, dans l'histoire de Bretagne, il fit disparaître presque entièrement celui de Montmorency. L'autre fils de Mathieu II continua la lignée des Montmorency de l'Île-de-France. Ils furent plus connus que les Montmorency Laval parce que les chroniqueurs, en écrivant les gestes de nos rois, parlaient nécessairement des seigneurs voisins et vassaux immédiats de ces rois. Les autres familles, aussi anciennes que celles-ci, mais qui vivaient dans les provinces, étaient à peine mentionnées aux annales publiques. C'est ce qui donne la raison du peu de noms historiques que l'on remarque dans notre histoire générale. Entre parenthèses, j'ai fait la même remarque dans les études historiques. Note de l'auteur. Le beau temps des Montmorency de l'île de France commence à Louis le Gros et finit à peu près à Charles V. Dans cet intervalle, on les voit partout à la tête des régences royales, des conseils et des armées, après quoi ils s'éclipsent. Ils n'émergent de nouveau qu'au connétable Anne de Montmorency, qu'on trouve d'abord simple page. Mince début pour un homme d'un aussi grand nom. Le connétable, d'une avarice sordide, comme presque tous les Montmorency, recomposa la fortune de ses pères, ou plutôt se fit une fortune immense par la guerre civile et étrangère, les faveurs de la cour, les confiscations et les extorsions. Montmorency Laval, comte de Chateaubriand, fut lui-même victime de la rapacité du connétable. Les Montmorency Laval, établis en Bretagne, en épousant diverses héritières bretonnes, avaient pris place entre les premiers seigneurs de cette province. Devenus barons de Vitré et de Chateaubriand, ils s'étaient maintenus en richesses et en honneur. Jean de Laval Montmorency, seigneur de Chateaubriand, terre qu'il tenait de son trisaïeul marié à l'héritière de Dinan Chateaubriand, Jean de Laval avait à femme Françoise, fille de Phébus de Foix, de la maison qui transmit la couronne de Navarre à la maison d'Albret. Françoise de Foix, comtesse de Chateaubriand, était sœur de Lautrec et du maréchal de Foix, brave comme les Graillis, sans avoir les talents du captal de Buche. Selon Varillas et les romanciers qui l'ont suivi, l'auteur des galanteries des rois de France, l'Esconvel, la Dixmerie, Madame de Murat, etc., la dame de Chateaubriand vivait ensevelie dans le vieux château de Chateaubriand, au fond de la Bretagne. Elle ne fut pas si bien cachée que le bruit de sa beauté ne parvint jusqu'à François Ier. Ce prince, qui, détournant le mot de Périclès, disait qu'une cour sans femme est un printemps sans rose, voulut orner sa cour de la rose prisonnière. Le comte de Chateaubriand était jaloux. De deux bagues parfaitement semblables, il en laissa une à sa femme, lui défendant de quitter sa retraite, quelque instance qu'il lui en fît par écrit, à moins que cet écrit ne fût accompagné de la bague qu'il gardait. Ceci, soit dit en passant, ressemble beaucoup à l'histoire de Childéric Ier. La bague du comte lui fut dérobée, mise à son insu dans une lettre d'invitation qu'il envoyait à la châtelaine, et la comtesse de Chateaubriand arriva à Fontainebleau. Elle fut aimée de François Ier, céda à sa passion après une assez longue résistance, et fut ensuite abandonnée par l'inconstant monarque qui se prit d'un nouvel amour pour Mademoiselle Daly, duchesse d'Étampes. Entre guillemets, « J'ai ouï compter, dit Brantôme, et le tien de bon lieu, que lorsque le roi François Ier eut laissé Madame de Chateaubriand, sa maîtresse fort favorite, pour prendre Madame d'Étampes, ainsi qu'un clou chasse l'autre, Madame d'Étampes pria le roi de retirer de la dite dame de Chateaubriand tous les plus beaux joyaux qu'il lui avoit donnés, non pour le prix et la valeur, car pour l'or les pierres n'avoient la vogue qu'elles ont depuis, mais pour l'amour des belles devises qui étoient mises, engravées et empreintes, lesquelles la roine de Navarre, sa sœur, avoit faites et composées, car elle est toi très bonne maîtresse. Fin des guillemets. Brantôme ajoute que Madame de Chateaubriand fit fondre les joyaux, les remit au gentilhomme envoyé de la part de son royal amant, en lui disant « Portez cela au roi, et dites-lui que puisqu'il lui a plu de me révoquer ce qu'il m'avoit donné si libéralement, je le lui rends, et le lui renvoie en lingots d'or. Quant aux devises, je les ai si bien empreintes et colloquées en ma pensée, et les y tiens si chères, que je n'ai pu souffrir que personne en disposât, en jouit et en eût du plaisir que moi-même. La conclusion de tout cela, d'après Varillas, fut que le mari offensé enferma sa femme pendant 6 mois à Chateaubriand, dans une chambre tendue de noir, et lui fit ensuite ouvrir les veines. La chose advint pendant la captivité du roi à Madrid en 1526. C'est dommage que la chronologie ne s'accorde point avec cette histoire. Il est certain que Madame de Chateaubriand reparut à la cour après la bataille de Pavie, et qu'elle ne mourut que le 16 octobre en 1537. Le comte de Chateaubriand lui éleva un tombeau décoré d'une statue, et Marot composa l'épitaphe suivante qu'on lisait sur le monument de Françoise dans l'église des Mathurins à Chateaubriand. Épitaphe. Proue de moins, peu de tel, point de plus, sous ce tombeau gît Françoise de foi, de qui tout bien un chacun souloit dire, et le disant onc une seule voix ne s'avança d'y vouloir contredire. De grand beauté, de grâce qui attire, de bon savoir, d'intelligence prompte, de bien, d'honneur, et mieux que ne raconte, Dieu éternel richement l'étoffa. Ô viateur, pour t'abréger le conte, si j'y un rien, là où tout triompha. Décéda le 16 d'octobre 1537. Il est certain pourtant que le comte de Chateaubriand fut soupçonné d'avoir attenté au jour de sa femme. Brantôme prétend que M. de Chateaubriand donna sa belle terre de Chateaubriand au connétable de Montmorency pour avoir l'ordre. Sur quoi le laboureur
fait observer
que ce fut pour avoir le gouvernement de Bretagne et aussi pour le tirer de la poursuite que l'on faisait contre lui pour la mort de sa femme dont il était accusé.
Les mémoires de Vieilleville
disent que le connétable, pour se faire donner la baronnie de Chateaubriand, menaça le comte de le faire poursuivre comme
dilapidateur
et denier des États de Bretagne. Un factum du connétable de Montmorency contre les héritiers de Jean de Laval qui lui contestaient la donation de la terre de Chateaubriand commençait par ces mots. Les malheurs qui ont accompagné la vie de M. de Chateaubriand sont si connus de toute la France qu'il est inutile de les rappeler. Voilà comme la seigneurie de Chateaubriand tomba dans les mains avides du connétable. Marguerite de Montmorency la porta dans la maison de Condé. Toute la Bretagne se crut offensée par le récit de Varillas. Plusieurs écrivains joutèrent contre lui, entre autres Évin, avocat au Parlement de Rennes. Mais où l'historien a-t-il puisé le fond de son anecdote? Je crois l'avoir découvert. Varillas ne ment pas faute d'instruction, mais il a l'inconcevable manie de brouiller les temps, les noms et les faits. La fin tragique de Gilles de Bretagne, frère du duc François Ier, semble avoir fourni à Varillas une idée vague de son mensonge. Gilles avait épousé Françoise de Dinan, dame de Chateaubriand et héritière de la branche aînée de ma famille. Le favori du duc de Bretagne, Arthur de Montauban, était devenu éperdument amoureux de Françoise. Pour s'emparer de la femme, il résolut de se défaire du mari. Il accusa le prince Gilles, auprès du roi de France, d'avoir des intelligences avec les Anglais. Gilles fut enfermé, par ordre de son frère le duc François Ier, dans un souterrain du château de la Hardouinet, et condamné à mourir de faim. Une paysanne le nourrit secrètement pendant 3 semaines dans son cachot. Elle lui portait du pain et de l'eau par une petite fenêtre grillée de fer qui répondait de sa basse fosse sur la douve. Les persécuteurs du jeune prince, voyant qu'il vivait toujours, l'étranglèrent le 24 avril 1450. Le duc François revenait du Mont-Saint-Michel, un religieux l'accoste sur la grève et demande à lui parler. Le duc, se baissant sur l'arçon de la selle pour l'écouter, lui dit « Parlez, mon père !»« Monseigneur, dit le cordelier, j'ai oui en confession Monseigneur Gilles de Bretagne, votre frère, quelques jours avant sa mort, lequel m'a chargé de vous aller trouver quelque part que vous fussiez, et vous signifier de sa part que, comme appelant de vous le défaut de droit, et de la cruelle mort dont vous l'avez souffert mourir, faute de justice, j'eusse à vous citer à comparoir, en propre personne, d'aujourd'hui en 40 jours, pour tout terme, devant le tribunal de Dieu, le juste juge, pour réparer en sa justice les torts et griefs dessus dits. Partant, je vous fais cette signification de la part du défunt, dont j'ai accepté la commission comme ministre de Dieu. Fin des guillemets. Gilles fut enterré à l'abbaye de Bocquene. Son cercueil fut porté dans une charrette attelée de 2 bœufs. Selon la tradition du lieu, la charrette entra dans l'église, fit le tour de la fosse, et onque depuis, nulle charrette n'a pu passer par le chemin de la Hardouinet à Bocquene. Cette abbaye, dans une forêt, n'est plus qu'une assez belle ruine. La veuve du prince Gilles, Françoise de Dinan, comtesse de Chateaubriand, se remaria en seconde noce au comte de Laval. Quand on tient de l'imagination de Varillas et qu'on remarque les transformations qui s'opérèrent dans le cerveau de cet écrivain, on est disposé à croire que les aventures du prince Gilles, frère de François Ier, duc de Bretagne, d'Arthur de Montauban, de Françoise de Dinan, comtesse de Chateaubriand, épouse en seconde noce du comte de Laval, sont devenues, sous la plume de l'historien romancier, les aventures de François Ier, roi de France, de Montmorency Laval et de Françoise de Foix, comtesse de Chateaubriand. Ajoutez à ceci que, peu de temps après les malheurs du prince Gilles, François II, duc de Bretagne, prince fort débauché, épousa Marguerite de Foix. C'en était encore assez pour que Varillas, au moyen d'une nouvelle confusion, fit de François II, duc de Bretagne, François Ier, roi de France, et de Marguerite de Foix, Françoise de Foix.